Bonjour tout le monde. Il me fait plaisir de vous accueillir au nom du GEPI et de vous présenter Max Cohn, qui va faire une conférence sur la maison, le travail clinique à la maison de la mère et de l'enfant à Paris. Max Cohn est psychanalyste. Il est membre d'Espace Analytique. Il vient de me dire qu'il y a 1000 psychanalystes à Espace Analytique. Bon, maître de conférence. Pas là-bas en tout cas. Maître de conférence à l'université Paris Diderot, Paris 7, et psychanalyste donc à la maison de la mère et de l'enfant à Paris. Il a publié des articles et des livres. Alors, je vous donne la parole.
Bien, ben, d'abord je voudrais vous remercier de m'avoir invité pour faire cette conférence dans le cadre du GEPI, le groupe d'études psychanalytiques interdisciplinaires, à l'Université du Québec à Montréal, UQAM. Alors, ce dont je vais vous parler, c'est de mon travail clinique et je pense, mais c'est peut-être pas forcément uniquement à moi de le dire, analytique dans une institution qui s'appelle la Maison de la Mère et de l'Enfant à Paris. Alors, peut-être un mot quand même sur ma carrière, pour me présenter un petit peu plus que ce qui a été dit là, qui est un peu formel et inévitable. Bon, moi j'exerce la psychanalyse depuis 31 ans. J'ai 58 ans. Bon, je fais donc évidemment une analyse personnelle, des contrôles. Et alors ça, je veux dire, l'analyse, j'exerce depuis 31 ans en cabinet. Bon, avec d'ailleurs des enfants, des adolescents. Psychanalyse et psychothérapie aussi. Et puis, alors, donc j'ai travaillé dans toute une série d'institutions. J'ai commencé ma carrière en 80 à l'hôpital psychiatrique du Havre, dans le service du docteur Cron, qui est mort là récemment, à l'hôpital Pierre Janet, où on faisait des consultations de patients qui avaient fait un accident de voiture. Et on avait beaucoup de tentatives de suicide inconscientes, préconscientes, conscientes ou surconscientes. Oui, donc, j'ai commencé comme ça, c'était pas évident. Et puis j'ai travaillé dans des CMPP, des dispensaires, des IME, soit pour faire des thérapies d'enfants ou des analyses d'enfants, soit pour animer des réunions cliniques aussi, avec des éducateurs, des travailleurs sociaux, dans des centres de placement des IME, instituts médico-éducatifs, des choses comme ça. Et puis alors donc j'ai commencé à travailler à la maison de la mère et de l'enfant, qui se trouve donc dans le 18e arrondissement à Paris, en janvier 85. Donc vous voyez, ça fait 24 ans. Enfin, c'est la 24e année. Et j'y suis resté. Ce qui n'est pas le cas des autres institutions où j'étais avant. Sur le plan des institutions analytiques, alors, j'étais assez proche de l'ex-école freudienne de Paris. Mais comme Lacan l'avait dissoute et que je ne voulais pas rejoindre l'école de la cause, je suis resté dans différents groupes qui tournaient autour de ce qui restait de l'ex-école freudienne. Et j'ai rejoint donc Espace Analytique, dont je suis membre, en 1996. Donc ça fait 13 ans. Voilà. Alors, quelle est la spécificité de la maison de la mère et de l'enfant? D'abord, c'est un centre maternel. Alors, j'ignore complètement la situation ici. Ça pourrait être intéressant, d'ailleurs, dans la discussion, que si vous avez des informations là-dessus, de me les donner, parce que ça m'intéresse. Je suis en train de préparer un livre sur la maison de la mère et de l'enfant, sur le travail clinique à la maison de la mère et de l'enfant. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un des entretiens d'accueil, le plus récent, d'ailleurs, celui du 18 mai, un entretien d'accueil d'une mère que j'ai faite là-bas. Alors, de quoi s'agit-il? Il y a une institution qui reçoit donc une trentaine, je crois que c'est 28, mais enfin c'est autour de 30 mères, seules, avec des enfants qui ont entre 0 et 1 an et demi. Pendant 1 an et demi. Il y a une crèche, elles habitent là, il faut qu'elle verse une pension à l'institution tous les mois pour avoir le droit d'y séjourner. Il y a un contrat qui est signé avec l'institution. Il y a des éducatrices, il y a des puéricultrices, Il y a une assistante sociale, il y a une directrice, il y a évidemment du personnel administratif aussi, et puis de services. Donc ça fait en gros quand même 40 personnes qui travaillent dans l'institution, 30 mères, 30 enfants, ça fait une centaine de personnes. Cette institution fait partie d'un certain nombre d'autres centres maternels qui existent, il y en a un certain nombre dans toute la France. Elle est subventionnée à la fois par la DAS, donc au niveau public, et aussi par une association qui est strictement privée, qui s'appelle la Société Philanthropique, et qui a toute une série d'autres institutions en France, c'est-à-dire d'autres centres maternels et des maisons de retraite. Alors, peut-être c'est intéressant d'avoir un tout petit peu une idée, parce qu'il y a eu un livre qui est sorti sur la Société Philanthropique qu'on nous a distribué quand l'ex-directrice avec qui j'ai travaillé pendant 20 ans, Mme Pradier-Bernard, est partie à la retraite. Il y a eu une espèce de cocktail là, à cette occasion-là. Et cette Société Philanthropique a donc publié un livre où on nous explique qu'elle est fondée à Paris en 1780 pour une action sociale diversifiée par 7 philanthropes dans les premières années du règne de Louis XVI. Ça commence comme ça. Au début, elle assista 12 vieillards, 12 aveugles, 25 femmes enceintes de leur sixième enfant. Pourquoi le sixième ? Aucune idée. Quand j'ai révisé pour l'exposé, je me suis dit, je ne sais pas pourquoi. 12 veufs, pourquoi 12 aveugles, 12 veufs et 25 femmes enceintes. J'ai aucune idée. C'est comme ça que c'est écrit, donc on est très surpris quand même. 12 veufs ou veuves, chargées d'une famille de 6 enfants au moins.
Ils vont par douzaine.
Voilà, ça va par douzaine.
Ça va par douzaine, comme les roses.
Hein, c'est les apôtres. Bon, enfin, bon, c'est quand même, c'est des gens qui sont proches de Louis XVI, c'est des nobles, c'est des gens qui ont de l'argent et qui veulent faire le bien. Hein. C'est intéressant au niveau mythique de la mythologie, quand même. Bon. Et le 12 décembre 1881, un second asile de nuit fut inauguré rue Labat. Alors, ça se trouve rue Labat, 44 rue Labat, dans le 18e. En 1896, un dispensaire est construit dans la même rue, et en 1951, une maison familiale de jeunes de 4 à 18 ans, et la maison de la mère et de l'enfant, a été fondée en 1954. Et elle devient donc un centre maternel à la demande de la direction sociale de l'enfance et de la santé. Alors ils ont une espèce de devise aussi dans une publication de cette société philanthropique en 1918 qui dit « Le silence qui convient aux bienfaiteurs sert mal à la bienfaisance. » Il faut que ça se sache qu'on fait du bien. Hein? Donc il y a un... voilà le mythe un peu originaire de cette institution qui se situe donc parmi bien d'autres centres maternels qui existent en France. Alors il y a peut-être une chose aussi à préciser avant qu'on je vous parle de notre travail clinique et puis de cet entretien donc plus précisément, c'est qu'il n'y a pas tellement de littérature sur les centres maternels et sur l'historique des centres maternels. Hein. Ça c'est une chose qui est tout à fait intéressante à remarquer. C'est pas un objet de recherche, ça existe, hein. Il y a quelques articles. J'en ai trouvé quelques-uns. J'ai une étudiante qui travaille sur le centre maternel en Bulgarie, Maria Srotkova, à qui j'ai donc demandé de faire une petite recension. Il y a un article de Nozet sur la place du père dans l'action sociale. Bon, le fait que le père soit évacué finalement de toute réflexion sur la prise en charge de ses mères et de ses enfants, ça va toucher un point clinique très important, hein, c'est-à-dire la représentation de la famille, du couple parental, de la place de la mère, du père et de l'enfant, enfin bon, et c'est ce point-là d'ailleurs que touche un autre article de Alain Savé, qui s'appelle « Le centre maternel comme surface projective des figures parentales », où il dit que ce qui se joue dans ces centres maternels, et ça c'est intéressant, c'est qu'il y a une espèce de fantasme d'une monoparentalité idéale, qui pour lui a pour fonction d'éluder le désir de parricide et d'inceste. Alors il résume en trois figures l'intérêt que les professionnels portent à la maternité célibataire, la mère est enceinte physiquement, mais jamais psychiquement. Elle touche à l'extra-symbolique et apparaît comme une fée ou une sorcière. Bon, cliniquement, c'est très intéressant parce que c'est vrai que nous avons affaire à des femmes qui sont mères toutes seules. Il y a une anarchie dans la procréation. Il y a une violence extraordinaire dans cette institution où il faut vraiment se battre, et nous nous sommes battus, pour insuffler de la psychanalyse, malgré le désir évidemment des travailleurs sociaux de réparer et de faire du bien, n'est-ce pas, et d'agir. Il y a souvent à freiner les demandes de signalement parce qu'il y a de la maltraitance, ou de la maltraitance imaginaire, ou de la maltraitance réelle. Je ne suis pas contre les signalements, mais ça peut être totalement destructeur pour tout le monde. Donc il y a vraiment une très très grande violence. En tout cas, il y a une expérience clinique de l'hiérarchie de la conception des enfants, n'est-ce pas, par des êtres humains, hommes, femmes, bien sûr, avec une absence des pères. Nous avons malheureusement depuis un certain nombre d'années uniquement des résidentes qui sont africaines. Avant, nous avions des résidentes qui venaient du monde entier. J'en ai eu une californienne, j'ai eu des chinois, j'ai eu de tout au cours de ma carrière. J'ai quand même fait des entretiens d'accueil depuis le début, donc j'en savais quand même plusieurs centaines. Donc c'est une expérience extrêmement importante. Je dis tout de suite comme ça que, comme les premiers entretiens dans une cure analytique, ces entretiens d'accueil vont immédiatement à l'essentiel des points morts, de ce que j'appelle le point mort du sujet, et que c'est vraiment terriblement difficile à mener. J'ai un papier à rédiger pour la directrice qui est ensuite transmis aussi aux éducatrices et puis y compris aux puéricultrices pour dire si je suis d'accord pour que la mère vienne ou pas. Une collègue avec qui je travaille, Claude Crozon-Navelet, avec qui nous avons fait un article commun, fait aussi les entretiens d'accueil quand c'est pas moi qui l'ai fait. Mais nous sommes projetés immédiatement au point aveugle de toute l'histoire du sujet, qui ne se dit pas à voix haute des choses qui sont très très importantes et que nous n'avons pas les moyens même de nous dire à voix basse, n'est-ce pas ? Donc il y a l'enfant qui est souvent là aussi, qui est plus ou moins présent ou absent pendant l'entretien clinique lui-même. Soit il pleurniche, soit il ne pleurniche pas, soit c'est un obstacle pour qu'on puisse parler. Enfin bon, il y a tout un vécu extrêmement important, extrêmement difficile. Et donc le point central du point de vue du clinique des réunions que nous faisons, il y a deux réunions, il y en a trois en réalité, mais il y en a deux qui sont centrales où je participe. Il y a une réunion avec les éducatrices et une réunion avec les auxiliaires de puériculture. Donc avec les auxiliaires de puériculture, on parle plutôt du bébé. Avec les éducatrices, on parle plutôt de la mère. Le problème, c'est que quand on parle du bébé, c'est la mère qui parle des fois c'est un ancêtre, des fois c'est le père, des fois c'est un autre enfant, des fois c'est l'enfant lui-même qui demande la synthèse, et puis que quand on parle des mères, ben, c'est pas la mère qui parle, mais le bébé, et que par conséquent, il faut faire circuler la parole. Donc, dès que je suis arrivé, j'ai senti, je vous passe les détails de l'institution, je voudrais venir au cas clinique, enfin à l'exemple plutôt de cet entretien d'accueil, c'est que j'ai senti qu'il ne fallait pas que la parole circule n'importe comment, parce que les gens intervenaient chacun quand ils voulaient, et que les psys, comme ça se passe souvent évidemment, sont ceux qui ont le dernier mot et qui doivent dire la vérité, et que ça ne peut pas fonctionner dans une institution comme ça, c'est destructeur. Puisqu'on n'entend pas à ce moment-là ce qui se dit vraiment, ce qui parle. La question qui se pose, c'est qui parle, n'est-ce pas ? Et pas du tout... n'est-ce pas la personne dont on parle, c'est pas la personne dont on parle qui parle. Par exemple, la dernière réunion clinique avec les éducatrices, là juste avant que je vienne ici, c'était une éducatrice qui n'avait jamais fait d'exposé, donc elle a lu un papier, je l'ai interrompu à un moment donné pour lui demander de ne pas lire les papiers par la suite, parce qu'on n'est pas là pour lire des papiers, on est là pour partir de ce qu'on ressent et puis de consulter un peu ces documents pour donner des informations sur l'histoire de la famille. Et donc je lui dis, mais qu'est-ce que c'est votre question ? Parce que là aussi, il faut qu'il y ait une question. S'il n'y a aucune question, si la situation clinique ne m'affecte pas, moi, le travailleur social ou la puéricultrice, je ne vois pas très bien où on va. On n'est pas là pour faire un exposé d'informations. Donc elle me dit, je me demande ce qu'elle fout là, la mère. Et ce qui s'est révélé autour de la synthèse, c'est que c'était la question de l'enfant. C'est-à-dire, qu'est-ce que ma mère fait là ? Qu'est-ce qu'elle fout là ? C'est-à-dire que, alors je vous passe tous les détails de l'histoire, parce que je ne m'en souviens plus, très franchement, et que c'est pas ça que j'avais préparé, et que, bon, je ne vais pas lire des papiers non plus, j'ai préparé un peu un truc sur, à partir de des notes que j'ai prises sur l'entretien d'accueil, mais en gros, c'était ça. Et là, on s'est rendu compte, en travaillant ensemble, que c'était cette question-là qu'il fallait reprendre avec la mère, que c'était à l'institution, à l'éducatrice en l'occurrence, de reprendre avec la mère, sans lui dire tout ce qui se disait pendant la synthèse, qu'on avait fait une synthèse, et que, au fond, étant à la place de l'enfant, elle avait à reprendre avec la mère cette question de « qu'est-ce que tu fous là, maman ?» N'est-ce pas ? C'était une situation tout à fait intéressante de ce point de vue-là. Alors, donc, dans l'article de Savet, vous avez donc la fée ou la sorcière, vous avez aussi la mère, la maternité qui devient une espèce de fétiche, qui masque et désigne la castration, car la mère a mis au monde un enfant sans père, désigné. Donc ça peut incarner, selon lui, une sorte de trauma, d'audace, ce qui n'est pas un concept très psychanalytique. Enfin bon, c'est intéressant de le nommer comme ça aussi. Et puis alors, la dernière figure qui intéresse notre horreur du désir oedipien, dans la mesure où l'enfant sans père représente un lien indéfectible avec la mère. En tout cas, c'est très intéressant, cette idée que la monoparentalité fait travailler la parentèle des professionnels travaillant en centre maternel, parce que, comme le dit Alain Savet, les mères célibataires ne jouent pas le jeu des structures élémentaires de la parentalité et mobilisent ce fantasme courant d'une monoparentalité idéale. Ça interroge sans arrêt la scène primitive. C'est fondamentalement de ça dont il s'agit sur le plan clinique et analytique. Bon, alors venons-en, si vous voulez, à cet entretien d'accueil.
Oui. Je peux deux secondes nous dire comment est le dispositif ? C'est-à-dire, comment ça se passe toi, tu les vois en premier, qui les voit en premier ?
Qui les sélectionne ?
Alors, les mères sont envoyées par la DAS. La DASES, ou alors par des assistantes sociales qui travaillent sous là, mais grosso modo par la DASES, très très rarement par une autre.
C'est le CLSC.
Oui.
Bon. C'est pas la DPJ.
Voilà. Donc c'est institué comme ça. Très rarement une autre mère s'est arrivée, donne l'adresse. Bon. Les psys reçoivent la mère dans un entretien d'accueil pour dire si c'est dangereux qu'elle soit là, est-ce qu'elle est toxicomane, est-ce qu'elle est psychotique. C'était ce qui nous avait été demandé par la précédente directrice. Bon, en gros, c'est pas le problème. Parce que d'abord, bon, ça, psychotique, ça peut se repérer, toxico, pas toujours. Pas toujours, ça se cache, ça. Hein, donc on peut se planter. Mais c'est pas vraiment le problème. Le problème, c'est qu'il faut que quelqu'un reçoive ses mères pour scotcher la mère à quelque chose qui va être un relais de l'institution sur le plan clinique et analytique. Et que donc ces entretiens sont un moment essentiel de tout le dispositif. Après, il y a donc une éducatrice qui s'occupe des autres éducatrices qui reçoit les mères aussi, la directrice. Et donc l'admission se fait. Ça, c'est sur le plan des entretiens d'accueil. Les réunions cliniques, donc il y a une réunion avec les éducatrices, une réunion avec les puéricultrices, et une réunion sur le fonctionnement de la crèche qu'anime seulement Claude Crozon-Navlet, ou à laquelle je ne participe pas.
La puéricultrice en France, c'est l'équivalent de l'infirmière pédiatrique ici.
Voilà. Est-ce que c'est un peu plus clair ?
Oui.
Hein ? Bon, donc, il y a, au bout d'un certain temps, une des synthèses qui sont demandées par le personnel des enfants à la crèche, ou par les éducatrices, des mères, pour qu'on fasse une réunion sur les mères. Bon. En général, ce n'est pas immédiat, il faut un peu laisser le temps à ce que la mère et l'enfant intègrent l'institution. Il y a une période d'adaptation, il y a différents niveaux de section à la crèche aussi, donc selon leur âge, et donc les demandes se font au bout d'un certain temps, c'est le personnel lui-même qui fait ses demandes. Je dirais d'ailleurs tout de suite que ce n'est pas le personnel qui fait les demandes, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'enfant qui demande une réunion, ou c'est la mère qui demande une réunion. Il faut l'entendre des fois. Il faut aussi dire que, à l'époque où Madame Pradier-Bernard a dirigé cette institution, l'ancienne directrice, elle était elle-même en analyse, la moitié du personnel était en analyse, et que ça a été quelque chose de très important dans le dispositif institutionnel. C'est moins le cas maintenant, mais on maintient quand même un travail analytique et clinique, à mon avis. Donc il n'y a pas de soins, alors il faut le dire aussi, il n'y a pas de thérapeutique, enfin il n'y a pas d'analyse des mères ni des enfants. Et encore moins du personnel, et ce n'est pas de la psychanalyse institutionnelle. S'il y a des conflits, on les règle dans les bureaux ou dans les couloirs, comme partout. Mais enfin, ça peut arriver qu'on en parle en public, dans une réunion, mais enfin, on ne passe pas son temps en public à régler des problèmes politiques. Hein, et à régler les problèmes du personnel, et encore moins à soigner les mères et les enfants. Hein. Sachant que cette institution exerce une très grande pression pour réparer, et qu'elle a un risque de tomber dans une position, alors j'aime pas trop le mot parce que c'est quand même un peu un poncif, dans une position totalitaire, c'est-à-dire d'être une espèce de tout où on va tout faire pour les enfants, la mère, enfin c'est pour dire rapidement les choses, hein. C'est pas avec une connotation d'analyse politique que je le dis, totalitaire au sens plat du terme, hein, une totalité quoi. Bon, alors, donc,
L'entretien, c'est ça.
Alors l'entretien, donc je vais reprendre à partir des notes que j'avais prises, cet entretien d'accueil qui date donc du 18 mai, qui porte, alors je vais conserver un peu l'anonymat parce que c'est quand même préférable, je l'appelais Madame A, qui arrive à son rendez-vous à 14h15 alors qu'elle avait rendez-vous à 13h30. Ça m'énerve toujours quand les gens sont en retard aussi longtemps, ça m'est arrivé d'attendre 2h30. Mon cabinet, ça fait longtemps que je vais voir un pot. Ah oui.
C'est une façon assez inaperçue.
Donc, c'est vrai. Non, mais j'avais passé.
Oui.
Mais bon, ça m'énerve énormément. Donc, on est obligé de rappeler, de demander à l'éducatrice de rappeler la mère sur son portable qui est ouvert, qui n'est pas ouvert. Bon. Alors, donc on la rappelle plusieurs fois, il y avait le répondeur, c'est très intéressant la clinique des répondeurs. Hein. Elle n'a pas entendu l'appel, nous dit-elle après, on laisse un message, je dis que je reste jusqu'à 14h30, enfin tout se passe comme ça, ça fait partie de la situation. C'est très important, évidemment. Hein. C'est arrivé, donc comme je vous le disais tout à l'heure, que ça dure 2 heures, hein, des fois des attentes. Bon, je dis, bon, franchement, il n'y a pas vraiment de règles, mais disons que au bout d'un certain temps, enfin là, j'allais m'en aller, j'avais fixé une limite d'une heure, quoi. Voilà, une heure d'attente. Bon. Alors, cette Madame A, elle a 23 ans, elle est née à Marseille, et ses parents viennent tous les deux des Comores. Sa mère est venue en 83, son père, elle ne sait pas. Elle ignore pourquoi ils sont venus. Ils se sont connus aux Comores. Et ils se sont mariés ici. Ici, ça veut dire à Paris. En tout cas, en France. Ah oui, à Marseille, enfin en France. Alors, son père a 46 ans, il est préparateur de commandes, il travaille dans une boîte d'assurance. Sa mère, elle a 43 ans, c'est une dame de service à la ville de Paris. Elle ignore quand ses parents se sont mariés. Évidemment, je ne veux pas trop le commenter tout de suite, je réserve ça pour la suite, mais disons que tout ce que je vous dis là, ce sont des réponses à des questions que je pose, que vous sentez enfin derrière, qui sont des questions assez simples. Hein, n'est-ce pas ? Bon, qui sont vos parents ? Comment ? Alors, là, effectivement, où ils se sont connus ? Comment ils se sont rencontrés ? Ça, ce sont des questions qui ne viennent pas forcément, d'ailleurs, dans tous les entretiens. C'est-à-dire qu'il y a des entretiens, on n'arrive même pas à les poser. Hein, bon, on est parachuté comme ça dans l'imaginaire de l'autre, sans pouvoir poser des questions qui sont très, très bateaux. Bon. Et je ne veux pas trop interrompre la narration là. Donc c'est une espèce de questionnaire qui s'est imposé à moi au fil du temps, qui est assez simple, qui demande des précisions sur la fratrie, sur le père de l'enfant, sur la façon dont elle a rencontré l'homme avec qui elle vit, ou pas, sur ses parents, et on est constamment confronté à la question de l'origine. Donc ses parents ne se sont pas mariés officiellement à la mairie, ils se sont mariés religieusement et ils sont musulmans. Elle dit qu'elle n'est pas pratiquante. Elle ne mange pas de porc, mais elle ne fait pas la prière. Et encore une fois, elle ne sait absolument pas, et c'est une question qui apparemment est revenue plusieurs fois, comment ils se sont rencontrés. Ça revient plusieurs fois dans le texte que j'ai rédigé, donc je pense que j'ai dû lui poser plusieurs fois la question, parce que c'était quelque chose qui avait l'air d'être problématique, et on va voir que ça traverse tout l'entretien aussi. Avant qu'ils se connaissent, sa mère a eu un enfant avec un homme en dehors du mariage. Et elle dit c'était adultère. Et évidemment, je me dis, mais pourquoi adultère? Puisque c'est hors mariage. Mais c'est comme ça qu'elle le redit plusieurs fois dans l'entretien. N'est-ce pas? Adultère.
Est-ce que le monsieur était marié?
Peut-être que le monsieur était marié, mais ce n'est pas le cas, puisque ce qui a marqué, et ce dont je viens de me souvenir aussi avant de regarder le papier en réponse à votre question, cet homme n'était pas marié, il n'avait pas d'enfant. Donc c'est totalement inadapté. Sauf que c'est comme si elle était là dans un couple, soit qu'elle formait elle, soit que l'autre formait, qui était légitime et qu'on trompait, d'une manière ou d'une autre. Cette liaison avec un homme hors mariage a produit une fille qui a maintenant 26 ans, qui est puéricultrice, qui vit à La Courneuve, qui est mariée, qui a un enfant. Donc, tout ça, elle peut le préciser. Hein. C'est très important de demander des précisions sur certains événements au maire, il y en a qui sont incapables de le faire, il faut entendre cette incapacité, ce n'est pas les informations qui comptent évidemment, c'est la capacité de la maire de pouvoir préciser des éléments de son histoire, n'est-ce pas? Les parents de sa mère l'ont envoyée en France car elle avait eu un enfant adultère. Donc les parents de la mère de madame, les grands-parents, considère bien que c'est un adultère, alors que ce n'est pas le cas, et il l'envoie en France. Pourquoi en France? Elle ne sait pas. Sa mère a vécu chez sa grande sœur à Marseille, qui est mariée, qui a 55 ans, qui est femme de ménage, qui a une fille de 38 ans, qui est elle-même mariée, qui a 3 enfants, qui est infirmière. Tout ça est très précis. C'est vraiment extrêmement intéressant, parce que là, c'est vraiment d'une précision totale, alors que quand on lui demande comment ses parents se sont rencontrés, ça ne le sait pas. Comme si ça masquait les choses. Hein, pas. Ça faisait écran. On rencontre les deux, une trop grande précision, une totale imprécision, et à chaque fois, bon, c'est la question du désir qui organise la précision et l'imprécision de toutes ces informations. N'est-ce pas? Bon. Donc là, elle rencontre son père quand elle est à Marseille, on se souvient que ça se passe à Marseille, toute cette histoire. C'était un ami du bled, des Comores, il était venu avant elle, ils se sont plu et se sont mariés religieusement. Alors là, il dit religieusement et le reste, ça s'appelle officiellement. En France, on dit aussi à la mairie. Officiellement, ça ne se dit pas tellement. Ce n'est pas une expression qu'on utilise tellement. Un mariage officiel, comme s'il y en avait un officieux. C'est pas officieux d'être marié religieusement, c'est aussi officiel, mais dans la tradition à laquelle on appartient religieusement, culturellement, bon, religieusement en l'occurrence. Bon. Donc ils l'ont eu en 85, ils sont restés ensemble jusqu'en 89, elle ne sait pas trop, 88, ils sont restés ensemble, 88-89, ça commence à flotter.
Ils se sont séparés d'après sa mère parce que son père ne s'occupait pas d'elle, la dame dont je parle, Madame A, quand elle était petite. Et son père dit que c'est sa mère qui ne voulait pas qu'il s'occupe d'elle. Il se renvoyait la balle comme ça. Alors je lui dis, mais où est la vérité? Alors elle me répond, c'est ma mère qui voulait pas, comme ça qu'elle le dit, qui voulait pas qu'il me voie. Voilà son récit à elle. Elle vit donc chez une amie, sa meilleure amie, à Place de la Nation, c'est une Malienne, elle l'a connue au collège, à Honoré de Balzac, elle a 25 ans, elle est sans emploi, enfin intérimaire, elle cherche un emploi, pas mariée, pas d'enfant, et elle vit chez elle depuis 2 semaines. Et puis quand elle est sortie de l'hôpital, elle a été chez sa mère. Mais c'est compliqué. Elle a été chez sa mère juste après l'accouchement parce qu'elle voulait renouer des liens. Ça n'a pas marché. On ne se supporte pas. Alors qu'est-ce qui se passe avec sa mère? Sa mère a refait sa vie quand Madame A a eu 5 ans. Elle a eu une sœur, on va l'appeler B, qui a 20 ans, qui vit chez sa mère, et sa mère est restée avec cet homme 5 ans. Et ce monsieur rencontre une autre femme, et elle dit, c'est comme ça, hein, c'est tout virus, tout le temps, hein, c'est compliqué les hommes. Il m'a plus élevé moi que sa vraie fille. Voilà le discours qu'elle tient. Après, sa mère n'a pas eu d'autre homme. Alors, on peut se demander, évidemment, tout de suite, sans rentrer peut-être dans l'interprétation nécessairement, dans la construction de cette situation clinique, n'est-ce pas, pourquoi elle dit ça? Il m'a plus élevé que sa vraie fille, et puis on a ce qu'elle raconte tout à l'heure, qu'on a entendu sur la relation de son père avec elle. C'est ma mère qui ne voulait pas qu'il me voie, mon père. Enfin, et là, il y a quelqu'un d'autre qui remplace son père et qui s'occupe plus d'elle que son propre père. Bon, on sent bien une signature fantasmatique, quoi. C'est pas un truc qui a l'air d'être dans le réel. Alors, où est la vérité, où est la réalité? Alors là, j'ai renoncé depuis des siècles. Sauf qu'on peut en saisir quand même quelques petites choses, mais qu'il faut laisser dans l'imaginaire ce qui est dans l'imaginaire. En tout cas, toujours décoller des récits qui sont souvent mythiques, qui sont racontés par les gens, on s'en sort pas. Donc, son père, lui, a refait sa vie 2 fois. Une première fois, ça a duré plus de 15 ans. Il a eu 2 enfants, et puis un autre enfant, 2 garçons, et puis une fille. Et ils vivent avec leur mère. Son père a pris une 2e femme aux Comores. Et donc, il a eu 3 enfants avec cette autre femme. Des enfants qui ont 7 ans, 3 ans et 2 ans. Et ses enfants, et 2 fois de suite comme ça, ses enfants vivent avec cette nouvelle femme. Et il y a 2 enfants qui sont nés aux Comores et 1 enfant qui est né en France, dans ce nouveau couple. Les 2 fois, ces 2 fois-là, ils se marient, et elle le répète, officiellement et religieusement. Ce qui n'était pas le cas avant. C'est-à-dire que là, il y a de l'injustice, quoi, je dirais. Hein? Ça va pas. Les femmes portent le nom de son père, à part sa mère. Là, il y a une situation d'exception. Tout va dans ce sens-là autour de sa mère. Et la 2e femme dont il a divorcé repris son nom. Alors, elle-même a eu un enfant, une fille, qui a un mois. Le père de l'enfant a 27 ans. Il était intérimaire dans le bâtiment. Il a trouvé un autre travail aujourd'hui. Et elle ne sait pas lequel. Et elle ajoute, peu importe en plus. Ça m'a quand même surpris. C'est-à-dire que vous avez des îlots de précision incroyables et puis des moments comme ça de flottement, de choses qui sont banales, ne peuvent pas se dire non plus. On peut se demander pourquoi. Ils ne sont pas mariés, ni officiellement, ni religieusement. Alors comme ça, tout le monde est content. Elle l'a rencontré lors d'une fête. Où est-ce que vous vous êtes rencontré? Toujours la même question.
Est-ce qu'il est musulman?
Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas.
Vraiment le mariage religieux?
Oui. Ben, apparemment, hein. Apparemment. Si, ça doit être le cas. Parce que si elle dit ça, c'est qu'il doit l'être. Effectivement. Mais je ne l'ai pas précisé dans le papier que j'ai là. Mais je pense qu'il doit l'être, évidemment. Sinon, elle ne l'aurait pas dit. Bon. Ils sont restés donc après elle l'a rencontré, oui, lors d'une fête quand elle avait 14 ans et sa grande sœur sortait avec un des copains de ce garçon. C'est une histoire de famille. Oui. Bon, ils sont restés 2 ans ensemble, ils sont séparés depuis juillet dernier à cause du bébé. Ça, c'est bateau. Hein. Souvent, la séparation du couple est liée à l'annonce de la grossesse, évidemment. Donc là, ça éclate.
C'est les chiffres qui vont pas. Elle l'a rencontré à 14 ans, ou il y a 14 ans
Alors, elle l'a rencontré...
Parce qu'elle avait 3 ans.
Oui, alors c'est ce jeu... Oui, il y a peut-être quelque chose qui va pas, là. Effectivement, vous avez raison.